Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Alexandre de Saint-Aignan.
Et à 18h20 sur RTL Soir, jusqu'à maintenant, le slogan de la sécurité routière, c'était ça.
Sécurité routière, tous responsables.
Mais depuis quelques jours, le mot d'ordre a changé.
Sécurité routière, vivre ensemble.
Et oui, il y a une nouvelle campagne. On est avec le délégué interministériel à la sécurité routière. Bonsoir Emmanuel Barbe.
Bonsoir.
Alors, tous responsables et maintenant vivre ensemble. Je me permets quand même de préciser que vivre ensemble, ça a été un des slogans de RTL dans les années 2000. Pourquoi ce changement ?
Bah, si c'était un slogan d'RTL, on n'a pas pu se tromper. Mais au-delà de ça, c'est une idée de redonner la finalité essentielle de la sécurité routière, c'est de vivre, c'est-à-dire de ne pas mourir, et sur un espace commun qui est la route, qu'on partage tous. Et donc on a trouvé qu'il fallait un nouveau motto, une nouvelle manière de définir notre projet, qui est un projet très noble finalement. Et on sent, avec notamment les grèves ces derniers temps, que le problème du partage de l'espace commun qu'est la route est un problème tout à fait d'actualité.
Alors c'est une nouvelle campagne qui est livrée à temps pour les fêtes de fin d'année, une période où il faut être particulièrement vigilant.
Oui, alors évidemment, c'est une période où on va beaucoup boire, et après tout, c'est quelque chose de très sympathique, mais il faut arriver à s'organiser pour faire en sorte de ne pas conduire après avoir bu. Et nous essayons de prévoir une campagne solution, une communication solution. Quand on tient à quelqu'un, on le retient, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se sentir indifférent au fait que quelqu'un va reprendre la route après avoir trop bu. Il ne faut pas considérer que finalement, c'est son problème. En fait, c'est un problème à tous, et on a le secours d'une cinquantaine d'animateurs, de télé aussi, par exemple Sébastien Chabal, l'ancien rugbyman qui fait un rôle très sympathique, pour essayer d'inciter tout le monde, par exemple à inciter à dormir ou encore à retarder son départ pour être certain de ne pas conduire sous l'effet de l'alcool. Je crois que c'est faut se sentir concerné par ça, voilà, faut pas se sentir indifférent, et c'est ça qu'on essaye de faire. Et puis on va lancer ensuite en janvier une campagne qui est fondée sur la gratitude. Vous savez, j'avais rencontré une grande dame de la sécurité routière, Geneviève Jurgensen, qui avait fondé la Ligue pour la violence routière, et qui me disait qu'il fallait remercier les Français pour tout ce qu'ils avaient fait pour changer leur comportement. Ils l'ont fait, et là c'est une campagne basée sur la gratitude entre usagers de la route qui finalement se remercient parce qu'ils ont respecté les règles, et que du coup ils ont le pouvoir de sauver une vie grâce au respect des règles.
Alors changer son comportement, ça peut être aussi ne plus boire d'alcool avant de conduire. Est-ce que vous-même vous êtes favorable au zéro alcool ?
La sécurité routière y est pas fondamentalement favorable, dans la mesure où on a plus de 90% des accidents qui impliquent l'alcool, qui sont provoqués par des personnes qui sont très au-delà de l'alcoolémie délictuelle. Autrement dit, l'interdiction au-dessous de 0,5 couvrirait finalement assez peu de cas. En revanche, ça bouleverserait totalement le mode de vie des Français, et finalement, d'une certaine façon, ça sanctionnerait des millions de gens qui sont tout à fait capables d'être tempérants avant de conduire. Donc, c'est pas un projet qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'en plus, ça mettrait beaucoup de gens dans l'illégalité, alors qu'ils présentent un très faible risque. Donc, le Premier ministre a d'ailleurs indiqué que cette réforme, qui avait un moment été un petit peu annoncée par un ministre, ne serait pas mise en œuvre. C'est pas un projet du tout.
Et la limite du 0,5, pour rappeler, juste, c'est quoi ? C'est 2 verres de vin, c'est ça ?
Oui, c'est 2 verres. Pour les femmes, peut-être 1,5 verre, parce qu'elles ont une moindre tolérance. Mais c'est peu, en fait. C'est plutôt 1 verre. En fait, c'est mieux de se dire c'est 1 verre. Voilà.
Bon, on va parler maintenant des radars. Ils ont été largement vandalisés ces derniers mois. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Nous essayons de le réparer. Nous avons posé jusqu'à présent environ 200 nouveaux radars en remplacement de ceux qui ont été totalement détruits. Ceux qui sont juste abîmés, nous les réparons. Et nous avons l'objectif pour la fin 2020 d'en avoir posé environ 1200. Il est certain que dans certains endroits, on rencontre encore de la délinquance, c'est-à-dire des personnes organisées, des délinquants qui viennent pour détruire ces radars. Et c'est évidemment affligeant. Donc les forces de l'ordre sont très mobilisées pour les amener là où ils doivent aller, c'est-à-dire devant des tribunaux pour répondre de leurs délits. Et puis l'État réclamera indemnisation du coût qui est induit pour la collectivité, sans compter que les radars détruits, ça induit des comportements moins respectueux des règles, et donc à la fin des fins, des morts sur les routes.
L'an dernier, on était passé aux 80 km/h. Certains départements prévoient de repasser aux 90 dans les prochaines semaines. Quand est-ce que la loi va être promulguée ?
La loi a été déférée devant le Conseil constitutionnel, donc elle devrait être promulguée, je pense, d'ici la fin de l'année. Ensuite, la procédure pour revenir à 90 suppose de consulter une commission départementale de sécurité routière, et donc ça pourra pas se faire tout de suite et certainement pas sur l'intégralité du réseau de toute façon, puisqu'il y a des arrêtés à prendre pour chaque tronçon qui est envisagé.
Oui, les conditions sont très strictes.
Alors c'est plus subtil que ça. En réalité, la loi donne vraiment le pouvoir aux gestionnaires de voirie, la plupart du temps les présidents des conseils départementaux, de repasser à 90. Mais il y a un avis qui a été rendu par le comité indépendant des experts du Conseil national de la sécurité routière qui explique comment il faut faire si on veut que cette décision ne présente pas de risque en termes de mortalité routière. Et évidemment, ce conseil est jugé restrictif par les gestionnaires de voirie, mais en quelque sorte, on peut pas, par exemple, par comparaison, accuser Météo France par ses avis de tempête d'empêcher les sorties en mer. Mmh. C'est quelque chose de similaire, c'est-à-dire que les experts en accidentalité, les accidentologues, expliquent que si on veut faire cela dans des conditions qui n'augmentent pas le risque de façon significative, il faut respecter un certain nombre de conditions, et c'est vrai qu'elles sont restrictives. Mais la liberté de choix reste, et même si les commissions départementales de sécurité routière donnent un avis négatif, le gestionnaire de voirie peut passer outre et prendre la décision de remonter la vitesse à 90. Il a la liberté de choix, mais moi je pense que les élus, qui sont des gens tout à fait responsables, verront en conséquence là où c'est possible de le faire et là où ça n'est pas possible. Sachant qu'au final, le passage à 80 fait perdre en moyenne une seconde par kilomètre, donc c'est aussi un élément dans le déterminant de la décision.
Est-ce que le fait d'être passé à la limitation de vitesse à 80 km/h et de repasser maintenant partiellement par endroit à 90 km/h, est-ce que pour vous c'est une forme d'échec ? Est-ce que c'est une forme d'échec pour le gouvernement ?
Écoutez, il y avait une demande que la décision soit prise au niveau local. C'est une demande qui ne touche pas que la sécurité routière. Hein. C'est une demande qui touche beaucoup de politiques publiques. Dans un premier temps, on avait suivi la logique du code de la route, qui est de dire que la vitesse se définit par rapport au type de réseau sur lequel on est. On a donné cette souplesse et on va laisser les responsables locaux décider. Je vois pas en quoi c'est une défaite. C'est franchement, ça fait partie...